Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Café Pouchkine. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de Boris Leonidovitch Pasternak. Alors, Pasternak, bien sûr, quand on dit Pasternak, la première chose qui vient à l'esprit, c'est, il faut bien le dire, un film et une chanson. Le film, c'est Docteur Jivago, la chanson, c'est la chanson de Lara. Mais, en fait, Pasternak n'est pas l'homme que d'un seul livre. Il est né en 1890. Son père, Léonid Pasternak, est un peintre très connu. Il est notamment l'ami de Tolstoï, et c'est lui qui a fait un portrait de Tolstoï parmi les plus connus et sans doute l'un des meilleurs que l'on puisse trouver. Sa mère est pianiste. Elle a abandonné sa carrière, mais elle continue à jouer. Et si la famille est d'origine juive, en réalité, elle ne pratique pas de la religion. Le père est lié à tout un cercle d'artistes de l'époque qu'on appelait les ambulants, avec notamment Isaac Levitan. Les ambulants, c'était des peintres qui allaient de ville en ville pour présenter leurs œuvres, estimant que celles-ci ne devaient pas être limitées au public des capitales. Alors, Boris fait une bonne scolarité, mais il est d'abord refusé au lycée, parce que, étant donné les origines juives de la famille, il y a un numerus clausus, on ne peut pas admettre plus de tant de juifs au lycée. Au départ, il pense devenir musicien. 1905 et 1906, il va vivre à Berlin. En 1908, il abandonne la musique. Et il se met à écrire, parce qu'il s'est rendu compte que c'est là qu'était sa voix. En 1914, paraît son premier recueil de poésie qui ne recueille aucun succès. En 1917, il écrit une œuvre importante, une œuvre poétique, « Ma sœur, la vie ». La même année, cinq ans plus tard, il va épouser une femme peintre. Et lorsque sa famille émigre, après 1918, lui va rester sur place. Il va toujours refuser de partir. Et il va vivre essentiellement de traductions. On lui donne notamment des traductions excellentes de Shakespeare en russe. Et à ce moment-là, va éclater le scandale du docteur Jivago. Il faut dire que Pasternak a écrit le docteur Jivago en 1954, c'est-à-dire à peine un an après la mort de Staline, alors qu'on ne parlait pas du tout de déstalinisation. On va commencer à en parler en 1956 avec le rapport de Khrouchtchev devant le Parti communiste de l'Union soviétique. Et on a dit que la CIA américaine avait joué un rôle. Toujours est-il que par un hasard peut-être téléguidé, Le docteur Jivago va paraître en russe en Italie. Et il va être aussitôt repris par des maisons d'édition de littérature russe clandestine, enfin clandestine, non autorisée en URSS. Et ce scandale va s'accompagner d'un scandale encore plus grand. En 1958, Pasternak se voit attribuer le prix Nobel de littérature. On a peine aujourd'hui à imaginer l'ampleur du scandale qui a éclaté à cette occasion. Tous les journaux du non-soviétique sont tombés à bras raccourcis sur Pasternak et, plus particulièrement, sur le docteur Jivago. Ce qui est étonnant, c'est que les journaux publiaient à l'envi des lettres de lecteurs indignés par ce Russe qui avait fait le jeu du capitalisme. Or, évidemment, personne dans le public n'avait lu le docteur Jivago puisqu'il était interdit en URSS. Donc, toute cette campagne qui a été montée contre Pasternak a quelque chose d'hallucinant. Même en URSS, finalement, fort peu de gens avaient lu à l'époque le docteur Jivago. Alors, la pression est telle que Pasternak doit renoncer au prix Nobel. Et il ne va pas survivre longtemps à ce scandale, puisqu'il meurt en 1960. Par contre, après sa mort, sa compagne Olga Ivinskaya et sa fille sont arrêtées, déportées, envoyées en exil et ne reviendront que bien des années plus tard. On peut signaler quand même que le docteur Jivago a été publié en URSS en 1985. Le mal était fait. Ce qui est étonnant, c'est que 7 ans plus tard, un prix Nobel était attribué à un auteur soviétique, Cholokov. Et là, en URSS, on a trouvé que le prix Nobel était quelque chose de fantastique, quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu étonnant quand on y songe. Alors, pourquoi autant de hargne contre ce roman? Le héros principal, c'est Youri Jivago. Et qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Lara. Lara, c'est un type de femme assez proche finalement d'Anna Karénine. Elle a été violée par l'amant de sa mère, Komarovski. Et puis, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec Pavel. Et lorsqu'éclate la guerre civile, Youri Jivago et Lara se rencontrent sur le front. Jivago a été mobilisé. Malgré lui, il a dû abandonner sa femme, son enfant. Pavel, le mari de Lara, est devenu commissaire politique. Il a changé de nom, il s'appelle Strelnikov. Après, des partisans rouges enlève Jivago, l'oblige à travailler pour eux. Lorsqu'il revient à Moscou, il apprend que sa femme et ses enfants ont émigré. Alors, Jivago va faire semblant d'accepter de fuir à son tour à l'étranger, afin que Lara et l'enfant de cette dernière puissent émigrer en toute tranquillité. Et Jivago va se réfugier à la campagne, il essaie de survivre. Un soir, il accueille le mari de Lara, appelé désormais Strelnikov. Strelnikov, commissaire politique, lui raconte dans la nuit quelle est sa vie. Il lui raconte qu'il sait qu'il va être arrêté. Et le lendemain, Jivago retrouve son corps, il s'est suicidé. Alors Jivago revient à Moscou, un jour dans la rue, brusquement, il s'écroule et il meurt. Lara, revenue à Moscou, peut participer à son enterrement. Alors, pourquoi ce roman a-t-il eu tant de scandales? Tout simplement, parce que c'est un roman où les deux héros disent carrément qu'ils ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe, à la politique, que pour eux, ce qui est grand dans le monde, c'est la nature et c'est l'amour. Alors, je voudrais, si vous avez l'occasion, si vous trouvez Docteur Jivago, à la fin du roman, il y a quelques poèmes écrits par Jivago. Des poèmes en russe absolument éblouissants. Et les derniers sont consacrés au Christ et à la religion. Par exemple, le jardin de Gethsemane. Le froid regard des étoiles lointaines illuminait le détour du sentier, les oliviers recouvrant la montagne et le cédron dans le fond du ravin. À mi-hauteur, la pente était brisée, à mi-hauteur, naissait la voie lactée. Les arbres gris d'argent, les oliviers voulaient s'enfuir, se perdre à l'horizon et, tout en haut, près du mur d'un verger, sur le chemin, il laissa ses disciples et dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici pour veiller avec moi. » Sans résister, il s'était dépouillé comme on renonce à des biens empruntés. De sa puissance et du don de miracle, il était seul et mortel comme nous. L'horizon noir semblait être l'image du vide même de toute la mort. L'espace entier se livrait au néant, seul ce jardin était un lieu de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Сердце стучит в груди.